France Culture.
J'arrive le matin, je gratte ma tête, je me dis là.
Décrire un magnétophone.
Il y a du travail.
J'en ai un sous les yeux, mais comment le décrire?
On embauche le matin à 7h30.
Et ça, c'est bien parce que c'est ce qui veut dire que ça me laisse très peu de temps.
Bon, on se pose, on allume les ordinateurs, on allume les amplis. On met une bande, on vérifie bien sûr. Avant de mettre la bande, il faut vérifier.
Ça, ça a été mon kiff.
L'état de la bande.
Bande magnétique de l'ORTF.
On vérifie l'état de la bande, on la met et bon, on la numérise.
Je mettais une bande, par exemple, de 7h, 7h00.
Pour avoir le bruit?
Il faut que le magnéto tourne tout le temps. Il faut qu'on croit que c'est ce que je fais. Soit concentré-t-il.
7-0-2 ou 7-0-3.
Donc on met une bande.
Polamar.
Sur un des plateaux.
Discours du général.
Sur les écoutes de l'INA, il y a beaucoup d'archives.
Il y a beaucoup de petites choses que quoi je dois marquer à gauche, à droite.
Franchement, c'est quelque chose de beau, quoi.
Admettons comme si moi je vais mettre une bande qui est à 38. Juste peut-être le début.
Normalement, il y a toutes les têtes de lecture à nettoyer avant.
Il est en 38 et puis il passe en 4,75.
On passe la bande dans le chemin de bande, tout simplement, devant la tête de lecture.
L'INA, il faut dire, mentionner, c'est ce qu'il y a au début et à la fin. Bonjour, mes amis, nous allons...
On l'attache au deuxième plateau.
Le studer qui est là, on découpe, on colle.
Alors moi, j'ai déjà tout fait entrer. Et là, à ce moment-là, je suis obligé d'arrêter cette bande, rectifier ma feuille. Magnéto 1, c'est magnéto 4. Okay, bon, dans les enregistrements, sinon c'est des cassettes. Il faut faire le double.
Le magnéto, on va le mettre ici.
On ne fait pas qu'un fichier, on fait deux fichiers, face A, face B.
On pose ses bandes. Voilà, c'est parti.
J'installe mes bandes. Je regarde pour voir si côté mat vient vers moi.
Des fois, il y a des bandes qui sont de plus ou moins bonne qualité. Et puis, quand on les perd un peu de vue...
Tu testes le tout.
Elles peuvent faire chandelle. Et alors là...
Tu retournes la bande. Tu fais tout ce qu'il y a à faire.
Sachant qu'une bande d'une heure à une certaine vitesse, ça fait jusqu'à 600 mètres. Quand il y a 600 mètres de nœuds à défaire, bah on met plusieurs jours.
Cette bande-là, tu peux le dire, il y a une anomalie.
Voilà.
Que tu ne peux pas l'enregistrer. Mais sinon ça...
Il faut faire attention, ça reste des bandes magnétiques.
J'ai appris beaucoup de choses.
Donc on ne peut pas les manipuler n'importe comment. On risque de perdre ce qu'il y a dessus, quoi. On risque de perdre ce qu'il y a dessus.
ACR.
Atelier. A.
Le studio du temps.
C. De création.
Atelier de création radiophonique.
R. Radiophonique.
Le studio du temps.
R. ACR.
Le studio du temps.
La porte est ouverte.
Je suis arrivé à Saint-Maur, je pense, en 2004-2005. Très rapidement, quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit « Ah, il y a des gens qui travaillent dans un studio. » C'était très étonnant qu'il y ait un studio d'enregistrement avec des gens qui travaillent au sein d'une centrale. Et quand j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Ah, ben, ils numérisent les archives de l'INA, les archives radio.
Pour que le travail ne soit pas aliénant, il n'y a qu'une solution. Il faut que l'esprit soit sans cesse en éveil.
Bon, là, on arrive au studio du temps, c'est la cabine d'office. Là, vous avez la rue de la Boulangerie, au numéro 15, c'est le studio central. À côté, vous avez la rue des Petites Oreilles. C'est le petit allée qui ramène aux deux autres cabines. Vous avez la première rue, deuxième rue. Après, ici, quand on avance un peu plus, vous avez l'avenue de la République.
En octobre 1990, les musiques de la boulangère commandent à l'architecte acousticien Bernard Delage un avant-projet pour la construction des studios dans un des espaces vides au sein des ateliers de la centrale sur une surface de 300 mètres carrés. Cet acte de construire à l'intérieur de la centrale, comme s'il manquait des murs, d'exiger de définir son propre espace, de le maîtriser en le conformant au projet à venir, était très symbolique et entamait une phase d'appropriation majeure de l'institution.
C'est un choc, hein, parce que quand on se retrouve au studio du temps, il est immense le studio, je ne sais pas combien ça peut te faire, au moins 500 ou peut-être 1000 m2, je ne sais pas, dans lequel il y a plusieurs studios, mais il y a aussi des grandes pièces à vivre. On n'a plus l'impression d'être en prison, quoi.
Cet acte hautement invasif inscrivait un territoire en même temps qu'il ouvrait à des modalités nouvelles et transformait les contraintes et l'usage de l'espace en même temps qu'il déployait les possibles.
Là, c'est Jardin Bruyant, le panneau Jardin Bruyant, l'espace où on se trouve avec l'arbre, là, un arbre un peu chinois. Là, vous avez voilà, les gongs, les instruments que je vous avais expliqué tout à l'heure. Et là, c'est le café de la place. Et là, à côté, vous avez la place des résonances. Et au-dessus, vous avez les sciences, la passerelle des arts. Et les numéros 9, numéro 7, et ce qui correspond au numéro de rue, mais aussi au numéro des cabines. Voilà.
Donc on a un vrai travail, on nous confie...
Les studios du temps.
Les archives de l'État français, quoi. C'est quand même une belle responsabilité. C'est quelque part un projet un peu fou que d'avoir eu l'idée de demander à des détenus de faire ce genre de choses.
deux cabines là, il y a trois cabines là, une cabine en haut, il y a quatre cabines là-bas et il y a une grande cabine là-bas à gauche.
On n'est pas dans le cadre pénitentiaire, on va dire. Quand on rentre, c'est tout de suite, on est ailleurs. C'est pour ça que même l'espace du temps, ça me rappelle à l'époque un dessin animé Dragon Ball Z quand il disait on va dans la salle du temps où on allait s'entraîner.
Quand on entre dans la prison, on se retrouve dans un autre monde. Pour moi, c'est un monde parallèle du monde dans lequel on vit.
Ben, on sort du contexte. Donc, ouais, on voit les studios, c'est impressionnant, le décor.
On passe d'un monde à l'autre. Je prends beaucoup de plaisir à naviguer là-dedans, si tu veux.
Quand M. Friese m'a dit on risque de fermer, c'était il y a quelques temps déjà, j'ai dit non, moi je veux pas être le directeur qui ferme les ateliers du son, les ateliers du temps. Pour moi, alors c'est comme ça, c'est une fin, c'est triste. Ça a été une très très belle aventure de plus de 30 ans, conjointe avec l'administration pénitentiaire, avec les directions interrégionales, avec l'établissement et les chefs d'établissement qui se sont succédés et les musiques de la boulangère au service d'une cause.
Je pense que tout le monde aura un contre-coup. Ce ne sera pas tout de suite, dans les semaines, parce qu'on a l'habitude de venir ici depuis, moi, presque 3 ans maintenant. Pour d'autres, c'est 10 ans quand même, plus de 10 ans. Ouais, il va y avoir un sacré contre-coup, je pense.
On se sentait dans un esprit de liberté, de parole. On se sentait encore dans la société. Moi, je suis en deuil chaque fois que je repasse devant la centrale de Saint-Maur. C'était la première fois que j'accédais au monde du travail.
Ici, à Saint-Maur, le silence s'éprend. Il y a du brouillard le matin. La campagne est déserte et tranquillement muette. Les mots sont rares et économisés. Il fait un peu froid. Tout se referme.
Depuis le début, c'était un lieu de culture, un lieu de formation, un lieu de travail. C'est-à-dire pas de travail sans formation, pas de travail déqualifié, pas de formation sans travail, c'est-à-dire on ne forme pas si on ne peut pas appliquer tout de suite ce qu'on fait. Pas de formation sans création, c'est-à-dire la dimension sensible de l'apprentissage. Pas de création sans formation, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas comme il y a eu des époques où tout le monde était musicien et puis en fait on fait un peu n'importe quoi alors qu'on n'est pas formé. Et puis pas de travail sans création, c'est-à-dire qu'avec les outils du travail, on peut s'exprimer soi-même. Et puis, pas de création sans travail, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de créer, on est aussi capable de se mettre au service d'une commande.
Alors, mon travail au sein de la boulangère, bah, y a 3 postes qui tournent, chef d'équipe, contrôleur et opérateur.
Vas-y, parle-moi de l'opérateur.
Bah, l'opérateur reçoit des bandes en cabine par le chef d'équipe, et son taf à lui, c'est de les numériser en étant au plus proche de l'original, donc du support d'origine.
Mais il numérise quoi en fait ?
Il numérise des archives de l'INA en général. Ça peut arriver sous forme de bande, sous forme de cassette, sous forme de DAT. Bah, par exemple, si c'est une bande, je la mets sur le magnéto, je règle l'azimut. Je fais attention à ce que mon chemin de bande soit propre, que je ne perde pas des fréquences. En général, ce sont les plus aiguës.
J'ai appris à numériser. On va dire que je suis technicien son à l'heure actuelle. Je ne peux pas dire ingénieur du son parce que c'est plusieurs études. Il faut la VAE, etc. À l'heure actuelle, je peux faire de la prise de son, numériser, passer des bandes analogiques au numérique, tout ça, cet aspect-là, je peux le faire.
Le magnétophone est branché à une carte son, le plus souvent une babyface. C'est un convertisseur, ça, ouais.
Analogique, numérique. Mm. Et donc, tu branches ça sur l'ordinateur, tu utilises un logiciel
que Pro Tools, donné, du coup, Pro on Tools. Utilise Pro Tools, ouais.
D'accord, et qui enregistre en direct ce que tu entends, c'est ça ?
C'est ça.
Et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite, une fois que la bande, elle tourne ?
Mais une fois que la bandelette tourne, on est en écoute active, c'est-à-dire on note les principaux défauts, c'est ce qu'on demande. Donc s'il y a des blancs, des grésillements, des craquements, des chocs micro. On nettoie le début et la fin de l'archive. On met ce qu'on appelle des poignées, c'est-à-dire une seconde de blanc au début et une seconde de blanc à la fin. On réduit les blancs centraux s'ils sont trop longs, mais on n'est pas là pour de la remasterisation ou de la remise en état.
Si le son est mauvais,
il reste tel quel, ouais. Faut être au plus proche de l'archive originale.
On n'a pas de chef direct, on n'est pas surveillé comme dans notre travail.
Après, Nicolas Friis n'arrête pas de nous répéter qu'il n'est pas notre patron. Ici, c'est une association, donc on est payé par l'association. C'est grâce aux produits de notre travail que les salaires sont versés. Ils partagent équitablement le chiffre d'affaires entre nous. Ils ne nous donnent pas d'ordre direct. Voilà, c'est pas l'entreprise traditionnelle, quoi. Il ne vient pas distribuer les bons et les mauvais points. Si jamais le travail est mal fait, on en discute.
Ça passait trop vite. Vraiment. C'était pas à la chaîne, justement. Mais on n'avait pas de pression de rentabilité au jour. Tiens, tu feras 10 bandes aujourd'hui, t'es en retard de 2. Pas du tout, non. Heureusement, d'ailleurs.
En mettant carrément de côté l'histoire de paye, d'argent, il n'y a pas l'histoire de calculer pour l'argent. C'est parce que, comme on dit, chaque travailleur mérite leur salaire. Mais on ne doit pas rester sur ça. On doit se focaliser sur ce qu'on doit faire. Avec le sentiment qu'on a servi à quelque chose, ça, c'est... Ça vaut plus que de l'or.
Ils sont dans une autogestion, ça ne nous empêche pas de faire des rondes pour contrôler, mais ils font leur boulot. Ils ont une certaine autonomie et c'est plaisant en tant que surveillant de voir ça, quoi. Pour moi, c'est assez différent des autres ateliers. C'est peut-être l'un des ateliers où il y a une présence les plus assidues. Ça les donne confiance en eux.
Tu vas pas passer 30 ans ou 20 ans, 18 ans à dormir, à attendre simplement pour aller en promenade. Non, tu es sans travail, il n'y a pas de sous-métier, tu travailles. Tu remontes, tu sais que le week-end, tu savoures bien. Voilà, c'est un atelier pas comme les autres.
L'autre chose qui est fondamentale dans l'atelier, c'est son fonctionnement, je dirais, son utopie sur le travail. C'est-à-dire qu'il y a... trois postes de travail, un opérateur qui numérise, un responsable d'équipe qui est là pour distribuer le travail, distribuer les archives, faire que les choses tournent, faire arriver les archives de l'extérieur et les renvoyer après, donc les questions de bordereaux, de livraison, de gestion de l'entretien, etc., des fournitures, etc. Et puis il y a un contrôleur qualité, c'est-à-dire quelqu'un qui contrôle le travail des autres et qui le refuse quand ça ne va pas. Vous imaginez l'intelligence humaine, psychologique qu'il faut faire pour dire à quelqu'un « ton travail n'est pas conforme », quelqu'un qui est votre égal. Et alors, pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche particulièrement bien là? C'est que ces trois postes sont tournants. Voilà, commence pas, Adrien. Tout le monde est contrôleur en alternance et opérateur en alternance. Et cette alternance fait que lorsque vous donnez des consignes en tant que responsable d'équipe, vous savez que les autres doivent vous accompagner dans ce travail de responsabilité parce qu'un jour vous serez responsable. On n'est plus dans des rapports de contraintes, on est dans des rapports de compagnonnage, y compris pour le contrôleur. Et alors, quand entre un contrôleur et un opérateur il y a un litige, soit ils arrivent à le régler entre eux, donc évidemment avec la tête, pas avec les bras, soit ils n'y arrivent pas, auquel cas ils appellent le technicien pour arbitrer. Parce qu'effectivement, dans ce moment-là, le litige est très important, la dispute professionnelle est très importante. En cas de litige, qu'est-ce qui se passe? On mesure nos consciences professionnelles. Moi, je pense que c'est pas bien, moi, je pense que c'est bien. Et ce litige qui a l'air d'être un conflit, en fait, c'est l'exercice de la conscience professionnelle. Donc c'est un nœud du travail. Et puis, on essaie effectivement qu'ils arrivent à le régler tout seuls sans l'apport des techniciens.
On discute entre nous des archives. Après, il faut se coordonner avec le chef d'équipe, avec le contrôleur. Puis même, des fois, quand on a des doutes, vaut mieux demander à quelqu'un, à des personnes qui ont plus d'expérience. Vu que moi, j'étais un des derniers arrivés. Comme je vous l'ai dit, ça faisait qu'un an et demi que j'étais là. Il y en a qui sont là depuis... Par exemple, Jean-Charles était là, ça fait 19 ans qu'il est là, je crois. Ou même d'autres qui étaient là depuis 4, 5, 6 ans. Ça permettait, des fois, quand j'avais des doutes, d'aller les voir. Et il y avait une entraide, quand même, assez importante, ouais.
À l'époque, je préférais être opérateur. Mais le responsable d'équipe, c'était pas mal aussi. C'était... On changeait, quoi. Et chacun voulait amener sa petite patte responsable d'équipe en inventant des choses.
C'est quoi l'équipement dont tu disposes, toi, pour travailler?
Un ordinateur, des baffes, un ampli.
Quoi d'autre?
Une carte son, un magnétophone, un magnétophone ou n'importe quel autre support, et je numérise.
Il y a combien de cabines?
12 ou 13, tout insonorisé.
J'ai pas eu l'occasion d'écouter vraiment activement les archives, parce que c'est compliqué d'écouter et en même temps faire attention aux défauts. Tu vois, tu le sais, Nicolas, mais par contre, ce que je peux dire, c'est sur les archives nationales, il y avait une personne qui avait laissé ses rushs 600 heures, je crois, à peu près. C'était Clara, une franco-italienne.
Clara Cambiani.
C'est ça.
Ouais. Les Français donnent aux Français.
C'est ça, exact. Et c'était magnifique, ça. J'ai beaucoup aimé, parce que franchement, c'était très, très intéressant.
C'était vraiment des gens différents. Des fois, aller voir des prêtres dans des paroisses, vous pouvez voir des femmes seules ou des gens handicapés. Et en fait, il y avait tellement de diversité dans ce documentaire que franchement, je me suis beaucoup attaché. Ouais. Et je me suis surpris à rire aux larmes. Parfois, dans la cabine, à écouter ces archives-là. Ouais. Et même d'écouter les rushs, elle coupait rien. Donc elle marchait avec son micro, son preneur son, il y avait le bruit de ses pas, c'était intéressant d'un point de vue technique, quoi. Voilà. En plus, nous, on ne peut rien couper. Donc on est obligé d'écouter l'archive en entier et on n'a pas le droit de... On doit restituer... Non, on n'intervient pas, on doit restituer l'archive dans l'état où elle est arrivée, quoi.
Les concepts sont véritables champs en philosophie.
Chez le philosophe Henri Bergson, quel est l'objet de l'art ?
J'entends
la nuit, oh, la nature.
J'entends la voix.
Le timbre de la voix de Deleuze qui était fascinant pour moi en tant que musicien.
Après que monsieur le recteur eut obtenu un rendez-vous pour le musée de la parole, nous nous sommes transportés le 3 juin 1936 à 3h30 chez le philosophe Henri Bergson avec un simple appareil enregistreur portatif Hurle et Dix.
Et donc on a rajouté des cours de chant, des cours de piano, des cours de cornemuse, des cours de contrebasse. Enfin, on a fait venir des professeurs du conservatoire de Châteauroux. On a fait des partenariats avec le Louvre pendant 5 ans. On a fait des partenariats avec Kinoch, la scène nationale de Châteauroux, avec les Beaux-Arts de Bourges. Enfin, il y a eu beaucoup de partenariats qui ont été faits tout le temps. Il y a eu beaucoup de permissions de sortie, enfin, des prises de son dans des usines, d'ailleurs de l'usine de Pyrex à Châteauroux. Enfin, il y a eu cette dimension culturelle était fondamentale. On a eu des visites au Louvre, même d'ailleurs, avec des détenus qui sont sortis avec des surveillants.
La vocation du Studio du Temps, c'est interpeller la nature et les fonctions de l'institution pénitentiaire publique par une expérience vivante, conçue dans la durée. Interpeller par son existence le sens de la peine. Le studio affirme ainsi un espace où exercer un travail politique et collectif de responsabilité civique est possible, travail dans lequel la société civile extérieure a un rôle à jouer à l'intérieur de la prison.
La création musicale se faufile dans cette solitude collective et interroge chaque son, chaque bruit, les objets, les voix, les instruments, les magnétophones. Elle les apprivoise avec lenteur et presque au ralenti pour leur soumettre une écriture, une partition.
J'ai commencé à comprendre que je n'étais pas là juste pour bosser, pour un patron. Ça, c'était important.
Tu sais que Nicolas nous parle souvent de culture ici.
Ben oui.
Pour lui, la culture, c'est le moteur qui permet aux détenus de s'en sortir. En tout cas, c'est un des moteurs.
Ouais, je trouve qu'il a carrément pas tort.
Toi, tu dis qu'il a pas tort.
Ouais, non.
Pourquoi ? Ben voilà, c'est ça qui m'intéresse.
Pourquoi ? Parce que ça te permet d'être dans quelque chose d'autre. C'est-à-dire que quand t'es enfermé, tout est enfermé chez toi. C'est-à-dire ton esprit, tout est enfermé. Donc, ceci dit, quand t'as un peu de culture et que tu t'intéresses à quelque chose d'autre, ça te permet d'oublier dans quel état tu es vraiment.
Donc, tu veux dire qu'en gros, la culture pousse les murs, en quelque sorte ?
Oui, ou même les efface.
Ce matin, c'est l'automne. À dire ces mots, je me sens vieillir.
Sans vieillir.
J'ai appris un peu des partitions, à lire une partition. J'ai pris des cours aussi avec Brigitte, qui donnait des cours de piano. Après, sur la composition aussi, ouais, par rapport aux périodes de création, on faisait nos mélodies, et après, derrière, on essayait d'aller chanter dessus et tout. Ouais, franchement, c'est une chance d'avoir travaillé ici au son.
Et est-ce que tu as pris des cours de chant ?
Ouais, aussi, avec Lucie, j'ai pris des cours de chant. La respiration, les techniques de respiration, parce que j'aimais faire les voix off, et comment contrôler tout ça et tout. Elle me donnait les conseils, donc ça m'a servi aussi, ouais.
Donc c'est des exercices très précis, avec très peu de son au départ, pour vraiment, comme pour le souffle, avoir des sensations précises au niveau de tout ce qui concerne l'articulation, des résonateurs. Et c'est un peu un travail d'orfèvre, quoi. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ont envie de chanter le plus fort possible tout de suite. Accepter de faire des tout petits sons pour ressentir des tout petits trucs. Il y a des gens qui voient pas du tout l'intérêt de la chose, quoi.
Ça ouvre un accès sur le monde différent de ce que nous, on peut vivre à l'extérieur, parce que ça ouvre des portes.
Là, la structure fait qu'il y a quelque chose autour qui fait que tout ça a un sens. Ça joue sur plusieurs plans, parce qu'il y a le côté professionnel, de faire un boulot, de le faire bien, enfin, d'apprendre quelque chose sur le plan professionnel. Et puis, il y a le côté création, et qui est les deux à la fois, je ne pense pas que ça existe ailleurs.
Ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert vers d'autres chemins, ça m'a fait réfléchir sur moi, sur mon futur, sur mon hier. Ça m'a repositionné quoi, dans les vraies valeurs. Ça vient des créations, ça ouvrait des champs que je ne connaissais pas, quoi, que, sur lesquels je ne m'étais jamais posé de questions. Les créations, ça ouvre aussi, c'est... Tu restes pas cloîtré sur toi et ça t'oblige à te prospecter et aller fouiller au fond. Par moments, ça faisait peur, ça, d'ailleurs. Je vous dis, par moments, je me disais, mais merde, fais attention à ce que tu fais, quoi.
Mon projet à moi, c'était de fabriquer du son avec un livre qui s'appelait « La colonie pénitentiaire » de Kafka. Cette machine qui était pour imprimer la peine sur le corps de l'homme.
Il y a toujours quelque chose de très physique dans nos relations. Ce n'est pas seulement une question de masse, mais aussi de transparence, d'histoire. Je les sens millénaires comme des puits qui résonnent quand on crie dedans.
Ça fait quelques jours que j'ai ces bruits dans ma tête. Ces bruits ? C'est comme si on tapait dans une cloche pendant une dizaine de secondes, et puis ça s'arrête. Et ça revient, et ça repart. Parfois, j'entends des voix. Je comprends pas grand-chose, mais ça me fait comme un écho. Je comprends pas. Je crois que c'est de l'anglais ou de l'allemand. Enfin, je sais pas trop. Pourtant, je suis pas défoncé. Évidemment, je fume pas, je bois pas. Je me tue au sport.
Tous les mois, il y avait donc un des techniciens qui avait la chance de bénéficier du studio principal. Et donc pendant un mois, il avait le studio et il pouvait faire des créations. Donc moi, personnellement, j'étais content parce qu'en tant que musicien, je me régalais. Donc j'ai fait au moins deux ou trois créations de musique concrète, entre guillemets, parce que à mon petit niveau, hein, évidemment. Mais parce que c'est le genre de musique que j'ai découvert hein, donc, au contact de Nicolas Frise. Et sinon, après, j'ai aussi enregistré des morceaux que j'ai un petit peu composés. Et puis, j'ai fait venir des copains qui étaient musiciens de la détention, je les ai enregistrés. J'étais toujours très, très content d'aller au studio pour pouvoir faire une création qui allait durer pendant un mois. Et en plus, on a... Ouais, oui, je les ai gardés. Et on a, comment dire, on a les consoles, on a le studio qui est tout équipé, on avait les meilleurs micros, les casques. Bon, après, des fois, on cherchait un peu parce qu'on savait pas trop comment faire sur certaines choses, mais on y arrivait toujours.
Thank you.
Travailler des heures et des heures et des heures.
Il faut une cohésion parfaite pour faire une création, une belle création, je dirais.
Et au bout de trois mois.
Et au bout de trois mois, on s'est rendu compte qu'on était tous reliés par une écriture.
Et qu'on se dirigeait vers quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui n'était connu de personne.
Enfin, moi, je l'ai fait naturellement, sans réellement réfléchir, sauf réfléchir à ce que j'allais dire exactement. Mais c'est tout. Et j'ai pris, en tout cas, moi, tout ce qui était positif, voilà, quoi. J'ai grandi, enfin, je pense et j'espère. Mentalement parlant.
La création, c'est une relation avec quelqu'un.
Je les vois encore les images. Je me vois encore dans le studio central à gauche. Le studer qui est là, on fait des trucs de malade. Mais il y a... Et après, il y a... le grand chef va passer, va écouter, mais il n'écoute pas tout seul en plus. Alors on est là, côté stress, mais là on combat le stress aussi. On cale tout et...
On a fait une création sonore pour lui en fait, tout ce qu'on a fait, bon ben voilà, on l'a fait... Pour lui rendre ce qu'il nous a donné, quoi, sans nous juger, en nous respectant, en nous traitant comme des personnes lambda, comme des personnes de l'extérieur. Et il nous a fait découvrir plein de choses. On a eu une bonne équipe, on était vraiment tous en cohésion, on était vraiment une équipe. Bon, voilà, on s'est investi même pour le projet du clap de fin. C'est vrai que voilà, ça nous fait mal au cœur, c'est un pincement au cœur, mais peut-être on le fait pas montrer, mais on reste fort. Mais croyez-moi, quand on est là-haut dans la cellule, bon voilà, quand on est... y a la larme qui vient, tu vois. Ça a été magique, quoi, pour moi. Ces cinq années-là, ont été magiques. Ces cinq années-là, en travaillant ensemble, je les ai pas vu passer, quoi.
Je suis pas vraiment à l'aise au niveau du son. C'est pas une forme d'expression où je suis très très à l'aise. Déjà, je supporte pas ma voix. Bon, c'est vrai, j'aurais pu faire de la musique, j'aurais pu faire autre chose. Mais je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit. Moi, je reste un peu partagé, même si j'ai participé, même si j'ai joué des instruments, des choses comme ça. Vu que ça reste de la musique concrète, il y a toute cette sensibilité que ça me touche pas et je le fais, mais je sais même pas si je l'ai bien fait, si je l'ai mal fait, je sais pas trop, parce que je reste assez hermétique à ça.
D'un coup, vous avez la prétention, qui que vous soyez, de venir sur scène, de vous mettre tout nu. Et dire, voilà ce que je fais. Tout d'un coup, vous avez la prétention, qui que vous soyez, de venir sur scène, de vous mettre tout nu. Et dire, voilà ce que je fais. Et dire, voilà ce que je fais. De venir sur scène, de vous mettre tout nu. Et dire, voilà ce que je fais. Et dire, voilà ce que je fais. Et dire, voilà ce que je fais. Et dire, voilà ce que je fais.
Il est difficile de rendre compte de la somme impressionnante des œuvres musicales, sonores, radiophoniques, des réalisations de toutes formes composées et mises en œuvre dans l'atelier pendant ces 34 années d'existence. Elles sont presque toutes gravées sur des CD avec leur titre et le nom de leur auteur. Elles sont de toute facture, certaines en stéréo, en quadriphonie. Certaines font un grand usage de la parole, d'autres sont exclusivement instrumentales. Certaines sont très électroniques, d'autres plus concrètes.
Au début de la formation, c'était la première fois que j'entendais ce genre de musique que Nicolas y fait. J'avais trouvé ça bizarre et en même temps fascinant.
T'étais là au concert, toi?
Ouais, j'étais passé, moi.
J'ai pas participé au public.
Ouais, je suis passé. Ah ouais, je suis passé vite fait. Je voyais José avec ses bang bang bang. Et Nico, il était derrière la platine.
Il faisait le chef d'orchestre.
Exactement. J'étais là.
J'étais encore à la métallerie, j'avais fait un carillon. Et j'avais participé au concert.
Je peux pas rêver mieux que ça dans une peine.
Ouais, c'est vrai. Je voudrais qu'il y ait un patron qui te laisse faire de la création. Et qui te met le matos à disposition pour.
Et lorsqu'il nous a dit que c'est la musique concrète, là, ting, bing, et donner ça un sens. Mais pour moi, je n'en revenais pas. Mais après, moi, j'étais content. J'étais vraiment content. Et depuis ce jour, toutes mes créations ont été basées sur ça.
C'était la première fois qu'on a eu un véritable silence. C'est là qu'on vivait le mieux. Nous, en tant que détenus, en tant qu'acteurs, parce que dans la partition, il y avait des moments très silencieux, et ce silence parlait énormément. On se sentait vraiment libre, on était nulle part, on était dans la partition.
J'avais le cerveau au bout de chaîne quand je suis arrivé ici. J'avais des valises sous les yeux, prenez des lanternes pour ici. J'avais besoin d'un coup de peps pour casser la monotonie. J'avais besoin d'un coup de tonnerre, j'ai trouvé l'électronique. Après confiance aux chances, j'ai gagné ma place. C'est plus la même présence que je relue que dans la glace. Le son me donne du sens depuis je tourne dans le sens du son.
Je fixe le temps d'une symphonie d'une voix et puis d'un coup klaxon.
Je réalise à peine l'importance d'archiver l'équipe. Mais je suis focal dans mon travail parce que c'est bien sécure. J'écoute tellement de choses qui me transportent et me nourrissent. On numérisait prose avant que toutes ces bandes pourrissent. C'est des morceaux de vécu que j'ai laissés dans ce temps. J'ai peint ce souvenir dans les mémoires en y fixant ma voix.
La boulangère, un atelier original dans le milieu carcéral, un emploi pas banal dans l'un des plus bancales.
Espérer, c'est prendre le parti de la vie.
Bon, bah, je m'appelle Adrien, j'ai 30 ans.
Je m'appelle Olivier, j'ai...
Moi c'est donc José.
39 ans.
J'ai 53 ans, bientôt 59.
Je m'appelle Ibrahim, j'ai 45 ans.
Je m'appelle François Besse.
Frédéric, j'ai 45 ans.
Pascal Grillonnet, je suis actuellement sur mon voilier Sangria à côté de Saint-Malo.
Jimmy.
Jean-Charles.
Pour l'atelier du son, c'est comme ça qu'on m'appelait.
Je suis né le 22 juin 1962.
Alors bon, je m'appelle Stéphane, j'ai 58 ans. Il y a le Stéphane d'avant l'incarcération et puis il y a celui d'aujourd'hui. Oui, je n'ai plus du tout la même vie, j'ai changé de milieu. Donc je me suis lancé à corps et à cri dans mon métier et ça a marché.
Ça s'est passé comme ça, il y a eu quelques affiches dans l'établissement qui annonçaient la venue de Nicolas avec d'autres personnes pour lancer une formation sur les métiers du son, qui pouvait après déboucher sur des travaux en atelier, création. Par contre, je ne me souviens plus si c'est moi qui ai postulé ou on a postulé pour moi. Moi, je pense que c'est le sous-directeur de l'époque qui a postulé pour moi.
Il y avait un appel d'offres, on disait, voilà, cette année, concours pour les inscriptions à l'atelier son, donc les personnes détenues s'inscrivaient, on regardait toutes les candidatures, et donc après, on faisait un entretien qui se passait aux sociaux, avec en présence des trois personnels d'atelier du son. Et après, il y avait un personnel de direction, une CIP, donc une conseillère d'insertion et de probation, et moi-même, personnel pénitentiaire. Et là, les personnes détenues nées se présentaient et disaient comment elles avaient entendu aussi parler d'atelier son, pourquoi elles voulaient venir à cet atelier son, qu'est-ce qu'elles comptaient faire, comment elles imaginaient la chose. Ils passaient tous, et après, on se concertait. Et après, on sortait une liste de noms.
Et ouais, c'était un peu intimidant en réalité, mais ça s'est bien passé. Je me suis vendu un petit peu parce qu'au début, il me dit ouais, alors essaye de te vendre un peu parce que j'étais un peu crispé, quoi. Il me dit alors qu'est-ce que tu peux proposer? Je dis moi je connais le logiciel Pro Tools. Donc c'est déjà un bon point. Et les archives de l'INA, j'ai m'y intéressé à l'extérieur. C'est surtout les auteurs comme Céline ou Marcel Pagnol, ce genre de choses. J'aimais bien regarder. Ouais. Mais c'était de l'image, là, c'était pas du son. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait aussi. Donc je me suis dit peut-être que les archives ici, ce sera à peu près pareil. Tu vois, on va avoir accès à un grand volume de culture. Et on va pouvoir justement continuer à s'enrichir, quoi.
Quand je suis arrivé à Saban en tant que gradé, l'atelier du son, quoi, c'est vrai que tout le monde en parlait un petit peu, donc on va voir, c'est vrai que c'était novateur. Ça permettait de se dire, bon, c'est peut-être un atelier différent des autres. Ils sentaient qu'ils avaient un superbe outil, un superbe boulot, et donc ils venaient vraiment là pour évoluer. Et c'était important. On le voyait d'ailleurs à chaque fois, les recrutements, tous ceux qui s'inscrivaient, et quand quelqu'un n'était pas pris, la déception qu'il avait.
Tu as eu un colloque, une grande manifestation, et tu as invité plein de monde. Et nous, en tant que détenus, quand on a été face à cette salle pleine de personnes inconnues, qui étaient là pas pour nous, hein, ils étaient là pour voir l'événement, pour, enfin bon voilà. Et une fois que on a pu s'exprimer chacun grâce à toi, ben on était à la fois ravis et puis de dire mais tiens mais c'est possible, on peut faire autre chose. Et tu avais demandé à ce que certains détenus viennent participer avec chacun un instrument. Et j'ai eu un instrument africain que tu m'as donné et j'ai pu jouer. Et ensuite, tu m'as dit, tu peux venir à l'atelier. Pour ce poste-là, j'avais passé aussi un test auditif et j'avais appris que j'avais de très bonnes oreilles.
Quand je suis rentré en prison, je savais tout juste lire et écrire. Et pendant 8 ans, j'ai fait que des études. J'ai passé mon bac. Je suis jamais resté à rien faire. C'est pas dans ma nature. J'ai appris aussi qu'il y avait une fois par an une sélection où on avait le droit de se présenter. Du coup, j'ai postulé. Bonjour. Et ça l'a fait.
Comme il fallait commencer la journée le plus tôt possible, on prenait le train. Alors moi, je viens de Paris, vers 6h. Voilà. Soit j'avais pas eu le temps de préparer avant mes cours, donc je le préparais dans le train. Voilà, j'arrivais en gare de Châteauroux. On allait du coup à Saint-Maur, qui est un peu excentré par rapport à Châteauroux. On arrivait devant en fait la centrale, où on était attendu. Il fallait surtout pas oublier sa carte d'identité, sinon on était venu pour rien. On enchaînait du coup les portes, il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup.
Je vais vous expliquer le chemin pour aller au centre.
Donc on rencontrait différents surveillants qui nous ouvraient les différentes portes, qui nous accueillaient, et qui nous menaient du coup jusqu'au studio du temps, à travers de longs couloirs, où on arrive dans un endroit qui est complètement différent. Franchement, qui était très plaisant. Bien sûr, avec quand même des grilles autour, il y avait des traces, quoi. Et puis, il y avait bien sûr la présence du surveillant qui surplombait l'ensemble. Mais donc, l'endroit était plaisant. En bois, je me rappelle, avec en plus des instruments comme le gamelan, qui était magnifique. Voilà, on était en général accueillis par les stagiaires. Et puis, donc, du coup, tout de suite, alors, en ce qui me concerne, moi, comme je faisais beaucoup de théorie, on se retrouvait en salle de cours, sur la mezzanine. Les plus petites sessions, c'était 2 ou 3 stagiaires, et les plus grandes, c'était 8, juste comme ça, quoi. Ils participaient beaucoup, ils répondaient.
On forme des gens qui n'ont pas vraiment prévu de faire une carrière là-dedans, qui ont 0 connaissance, et en un laps de temps très court, il faut qu'ils soient formés et opérationnels pour pouvoir faire la numérisation. Donc, ils ont un énorme saut à faire dans un temps très court.
On essaye de briser la distance au fur et à mesure des cours techniques. Parce que là, par contre, la moindre chose demande des fois un combat. Parce qu'il y a en face des gens qui veulent comprendre, mais qui, à des moments, ils le disent, on a perdu la capacité de réfléchir. Ce dont je me rappelle le plus, c'est quelqu'un qui avait une bonne 40aine d'années et qui, le deuxième jour, est venu me voir et me dit « Je peux plus, j'arrive plus à réfléchir, 2 secondes, j'arrive plus ». J'ai perdu, pendant les 10 dernières années, ma capacité à réfléchir. Voilà.
Les horaires sont très stricts dans le milieu carcéral. Et du reste, je sentais qu'ils commençaient déjà, eux, non pas qu'ils s'ennuyaient, mais ils commençaient à regarder la pendule pour être sûr de ne pas être en retard. Du coup, on s'arrêtait net à midi moins le quart. Ils partaient déjeuner avec la fouille, je me rappelle qu'elle était systématique. Voilà. Et donc, nous, on attendait. On attendait qu'ils soient tous partis, et puis ensuite, les surveillants revenaient nous chercher. Et là, nous, on était conduits vers la sortie pour aller déjeuner à l'extérieur, au mess. Et puis, donc, même chose l'après-midi, on rentrait. Donc, même
par le portier.
Voilà, tout pareil, hein, vraiment, c'était toujours un petit peu longuet. En général, l'après-midi, on passait au studio. Donc, en fait, on restait au rez-de-chaussée, où là, il y avait un studio d'enregistrement, vraiment très chouette, avec une console. Alors, du matériel analogique, un peu à l'ancienne, mais non, pas que, il y avait une console numérique. Et donc là, on faisait plutôt des exercices de routing, de patch. D'ailleurs, en fait, on leur apprenait à router le son dans un studio, quoi. Ce qui est en fait un exercice. Alors, pour un professionnel, ça paraît limpide, mais en fait, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est un exercice qui est assez compliqué. Et ça, ça a été toujours une source souvent d'angoisse pour eux d'arriver à s'y retrouver dans les liaisons, je me rappelle.
Le son est une maladie pleine de boutons.
Ça passait déjà par quelques bases techniques, un peu indispensables, mais très ciblées pour arriver à la technologie des micros, qui elle-même nous permettait de commencer à faire des écoutes comparatives, de faire de la prise de son, de définir une prise de son, ses critères, l'image sonore, les plans sonores, transparence, piqué, densité, c'est rêche, c'est cristallin, c'est profond, c'est plat. Voilà, d'en arriver à avoir une écoute critique. J'étais assez bluffé à des moments. Parce que quand on arrivait aux écoutes comparatives, où je faisais écouter différentes prises de son faites avec différents types de micros, différents types de couples, etc., qu'on parlait de prises de son larges, tout ça, etc., j'étais assez étonné de la remarque de certains, de la pertinence de ce qu'ils pouvaient faire comme remarque. C'est extrêmement sensible en face. C'est pour ça que à des moments, le moindre mot peut éveiller chez eux un blocage, une question, une angoisse. C'est effectivement organique, je trouve ça, c'est assez juste. C'est d'un point de vue sensible, on a des gens fleur de peau devant, hein, très très souvent. Donc quand on leur parle technique, d'un coup c'est un peu, mais tu me parles de quelque chose que je connais pas. C'est quoi ce mot? Mais alors ce mot, mais celui-là, alors du coup, il veut dire ça?
On m'a appris à détecter les défauts d'un son, même quand je ne travaille pas. Je suis juste dans ma cellule en train de regarder la télé ou en train d'écouter de la musique. J'ai toujours le réflexe, ah bah j'ai entendu un clic, ah là ça c'est un pop, ça c'est du souffle. Et ben j'ai gardé ce réflexe-là d'avoir l'oreille toujours éveillée, toujours l'oreille en suspens, c'est devenu un réflexe.
On passait en revue en fait les différents défauts sonores et on apprenait à mettre des mots dessus quoi.
Alors on peut d'ailleurs en citer quelques-uns, le wavering, le...
Oui, il y avait le buzz, il y avait le pleurage, il y avait le hum, il y avait les clics, ben voilà, il y a tout un florilège de mots sympathiques et c'était drôle parce qu'ils attendaient en fait beaucoup, c'était curieux comme ils attendaient. En fait, en réalité, ce jargon c'est plus pour les familiariser avec ces événements qu'ils vont devoir noter dans les notices documentaires des archives. Mais en réalité, quand, dans la pratique, finalement, on se rend compte que parfois, il y a des défauts qu'on a assez du mal à caractériser, quoi. Mais par contre, eux, ils faisaient un gros effort de vouloir vraiment, sur cette nomenclature. Ils pensaient vraiment que pour chaque type de son, il y avait un mot en face à mettre, quoi.
Il y a tout un vocabulaire précis pour qu'on parle tous de la même chose, en fait. Parce que, par exemple, je sais pas, c'est si on parle, par exemple, d'une sifflante, ça va être une fréquence... aiguë, précise. Et quand on dit sifflante, dans le milieu, tout le monde sait de quoi on parle. Si on dit bah il y a un truc aigu là-haut, bon, bah, ou si chacun utilise son propre vocabulaire, on va très vite se perdre. Donc il y a un vocabulaire commun, quoi.
La première fois que j'ai pu être en compagnie d'un ingénieur du son qui nous a fait les chutes du Niagara avec un robinet, rien qu'avec une combinaison de micros, de distance et de flux, il nous a fait écouter les chutes du Niagara. Mais on y était dedans. Et j'ai dit, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Pouvoir restituer quelque chose où l'imagination va pouvoir, avec nos oreilles, autres que nos yeux, former des images.
Peu à peu, j'entends tinter les pierres, craquer le bois sous mon pas. Un caillou qui roule sur la pente du chemin. les feuilles elles-mêmes, accompagnant la vie, je marche sur le sentier de l'inconnu, comme pour aller au plus vite trouver une clairière, une lumière, un espace, un silence. Je ne suis donc qu'un départ.
Toute sanction qui se respecte mérite ou a le devoir d'être intelligente, c'est-à-dire être utile, autrement dit ne pas trahir ou mépriser les victimes et la société entière en laissant les condamnés face à eux-mêmes dans l'autodestruction, la sidération, la paranoïa, l'impuissance ou la haine. Tout enfermement et isolement social forcé, outre qu'il engendre des récidives en nombre, n'offre aucun contexte de réparation individuelle ou collectif. Il n'a donc aucune chance de donner des outils pour créer de la responsabilité sociale, de la réparation sensible, culturelle et identitaire. Je dis que la justice en France n'a pas de projet.
On partait de très bas, enfin, voilà, de zéro presque. Voilà. Alors c'est vrai que c'était déconcertant. Je me souviens que j'étais vraiment obligé de m'adapter au jour le jour, parce que c'était quand même, entre eux, il y avait aussi de réelles différences. C'est vrai que ça donnait un peu envie de se remettre en cause sur les méthodes d'apprentissage et d'évaluation.
Ils passent donc un examen, ensuite de la fin de la formation, pour savoir s'ils vont entrer dans la numérisation, s'ils vont entrer dans le studio. Ouais, ouais. Et cet examen, il consiste en fait à leur poser des questions théoriques, etc., donc par écrit. Et puis, on teste beaucoup leur capacité de création. D'ailleurs, ouais. Ils ont toujours dit, mais pourquoi est-ce que, alors qu'on va être des techniciens son qui vont faire de la numérisation, pourquoi on nous juge sur notre création? Ben, ça dit tout du studio, hein, ça dit tout de l'état d'esprit.
C'est un jury, quoi. Donc, on est en train de les juger, quelque part. Et je me suis dit, peut-être que ça doit réveiller, en plus, chez eux, forcément, leur histoire, quoi.
Après, au bout de quelques années, on a mis en place une VAE pour qu'ils aient un diplôme de technicien son. Et cette VAE, ça a permis à certains de l'avoir, Jean-Charles... validation des acquis de l'expérience. Ça permet à des gens qui n'ont pas de bac et qui n'ont pas fait d'études d'accéder à un diplôme qualifiant grâce à la pratique et non plus grâce à la théorie.
Le monde carcéral, on en fait ce qu'on veut. Soit on se laisse habiter par l'enfermement, soit on fait des choix. On prend la décision de s'ouvrir. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que chacun vient avec son sac de problèmes, de famille, d'incarcération, de communication. Et puis, moi, j'ai compris que je pouvais m'ouvrir autrement. Je pouvais grandir autrement. Et cet atelier a changé, je le disais tout à l'heure, ma perception de la vie, ma perception du monde. Et j'avais compris aussi que je pouvais m'ouvrir pas en pleurant.
Je suis sorti directement en conditionnel. Donc je suis technicien son, étant donné que au studio du temps à Saint-Maur, j'avais la chance de travailler sur Pro Tools. Donc du coup, j'étais formé à ça et petit à petit, je me suis retrouvé technicien en chef de l'action culturelle. Donc ils font beaucoup de concerts pédagogiques dans les collèges, les facs, les lycées. Alors il faut savoir que la formation qu'on a reçue à Saint-Maur, on a quand même eu la chance d'être formé souvent c'était les formateurs de Radio France qui venaient nous donner des cours. Et non, quand on sort, on n'est pas à zéro. Et il faut pas baisser les bras, il faut y aller, il faut apprendre. Et moi, j'ai eu la chance, on m'a mis au plateau. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, mais quand on aura fait 200, tu verras, ça ira mieux. Et maintenant, on peut m'appeler, je vais partout et je peux tout faire. Je sais pas si toujours ceux qui sont au studio du temps, ils ont cette vision et de la chance qu'ils ont de travailler là et de savoir qu'en fait, ils sont en train d'apprendre un vrai métier et que quand ils sortent, en fait, ils peuvent aller travailler partout.
C'était vachement bien, oui. Non, mais parce que ça nous apportait, ça nous rendait humains. Ça, c'est super important, c'est-à-dire qu'on n'était pas des fauves. On était des humains, on était très respectueux. Au contraire, on voulait avoir un peu de douceur à nos oreilles.
Je voyais mon évolution, tu vois, et par rapport aux autres personnes que je côtoyais, et que je côtoyais moins du coup après aussi, voire plus du tout, ça crée un embarras d'ailleurs. C'était, oui, conscient qu'on n'avait plus le même mode de pensée, de réflexion, quoi, tu vois.
On était dans un univers très respectueux, faut le dire, et pourtant, la maison centrale de Saint-Maur avec toute l'équipe qu'on avait. C'était parfois on pouvait, si on cumulait les peines, c'était énorme. On avait tous des très longues peines. On avait tous quasiment 30 ans avec des peines de sûreté de 20, 22 ans. C'était énorme.
Après, les autres, ils m'ont vu évoluer aussi. Il y a des trucs qui me parlaient, ils me disaient, mais t'as rien à faire ici, toi. Et là, j'étais assez fier de ça. Les gens s'aperçoivent que voilà, j'étais quelqu'un d'autre. Et avant, j'étais pour moi, maintenant, j'essaye d'être pour les autres.
Comment leur donner à tous le goût de la lutte et le dégoût de la guerre ?
Hello Little Big Man, la nuit me vole mon silence. Je croyais qu'après un torrent d'émotions, je trouverais mon calme avec la nuit tombée. Mais je ne peux pas effacer ces 3 mois de travail, de confiance et d'amitié. En fait, la lutte ne fait que commencer. La relâche m'est impossible. La brèche me laisse entrevoir un horizon que je désire le plus bleu possible. Chasser la grisaille est une chose, ne pas la laisser revenir en est une autre. Je souhaite de tout mon cœur que tu puisses, dans l'avenir, venir te ressourcer dans ce que tu as semé. Que cette moisson soit la plus abondante possible pour que tu puisses alimenter ton tourbillon de folie en ne laissant sur ton passage que des bouches béantes qui se trouveront entraînées dans le temps par ton message musical. Le son peut nourrir les âmes aussi. Et ce soir, la mienne est bien pleine.
ACR, atelier de création radiophonique. Le studio du temps.
En octobre 1990, les musiques de la boulangère commandent à l'architecte acousticien Bernard Delage un avant-projet pour la construction des studios dans un des espaces vides au sein des ateliers de la centrale, sur une surface de 300 mètres carrés.
Ça fait plaisir de se sentir chez soi.
D'ailleurs, Nicolas, on dirait que c'est un bel espace.
Oui, c'est un bel espace, oui. Oui, c'est bien. On a envie de construire, je trouve, là-dedans. On a envie de bâtir, de se mettre au travail, quoi. On va monter donc une dalle flottante, on va monter des murs, des boîtes, qui seront toutes insonorisées les unes par rapport aux autres, complètement isolées aussi de l'extérieur des autres ateliers. On entend là la menuiserie, les rabots, la lessie, enfin là, on les entendra plus. Et puis il va y avoir ici, sur la partie où on est en arrière, une salle de formation, pour pouvoir s'asseoir, être à table, regarder le tableau, enfin qui sera pour les parties plus théoriques et les parties plus pratiques de l'apprentissage du son. Il y a une climatisation, une toilette à gauche, et puis le bureau à droite, où on va mettre tout le stockage de bandes magnétiques, etc.
Ça va faire une sacrée différence avec les autres ateliers.
Ah oui, tout à fait, parce que les ateliers, le principe des ateliers, c'est des ateliers collectifs, où il y a plein de machines, où on utilise toutes les surfaces, alors que là, on va morceler le tout. En fait, ce que je trouve pas mal, c'est qu'on voit pas trop qu'on est dans une détention, quoi. Il y a déjà, c'est un hangar comme un autre hangar. Et en plus, comme on va tout réhabiller, qu'il va y avoir des toits, en plus dans toutes les cellules, on verra même plus les grillages sur les vitres. Et puis tout sera redécoré à l'intérieur, il y aura des vitres, il y aura des portes vitrées, il y aura une déco, ce sera peint, il y aura un revêtement de sol. Enfin, on va vraiment un studio comme un studio, quoi. On sera vraiment dans un studio. On sera pas ici.
On sera pas ici, sauf qu'on sera dans un univers carcéral. Ouais. Avec un accès qu'on a bien vu tout de suite,
ouais.
Très difficile.
Oui, tout à fait.
Et tout à l'heure, dans la réunion qui a eu lieu avec le personnel, il a été question à votre propos d'utopiste.
D'abord, l'utopie, il y en a besoin, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent se... Les grandes choses sont toujours utopiques. C'est-à-dire que heureusement que l'utopie fait partie de la politique, fait partie de la philosophie, fait partie de l'art, fait partie de l'économie, fait partie... Parce que c'est elle qui alimente l'irrationnel, et que l'irrationnel, c'est le... doit être sans arrêt à côté de nous pour la définition du rationnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que des choses parce que... Bon, alors ça, c'est une première réponse. Je crois que l'utopie est importante. La deuxième chose, c'est que on n'est pas du tout dans le rêve. Cet espace est très approprié. Il est totalement sain. Il est bien placé. Il est agréable. On va l'aménager d'une façon qui va l'enrichir encore plus. Et je crois qu'on va pouvoir y faire du très bon travail. Donc, là, pour le coup, c'est absolument pas, je crois que le dispositif auquel on se prépare est pas du tout idéaliste. Et il est complètement très réaliste. Mais il a il est extrêmement, extrêmement pilote, donc en soi, il a une dose d'utopie, mais je crois que la dose d'utopie, c'est sa garantie.
Qu'est-ce qui vous pousse ?
À le faire ? J'en sais strictement rien. Je ne sais pas.
Atelier de création radiophonique.
Le studio du temps.
Alban Penaranda.
Nicolas Frise.
Prise de son, Philippe Thibault, Éric Boisset, Guillaume Ficheux, Nicolas Leroulet. Réalisation, Jean-Philippe Navarre.
Mixage, Valérie Lavalard.
Avec les voix de
Frédéric, Ibrahim, Jean-Charles, José, Olivier, opérateur au studio du temps.
Alexis Vitré et Ludovic Soria, surveillants à la centrale de Saint-Maur.
Christophe Lizot, Michel Morère, Jean-Marc Boiteux, ingénieur du son et formateur au studio du temps.
Et Lucie Jolivet, professeur de chant.
Jimmy Apadou, François Besse, Stéphane Burier, Jean-Claude Girardeau, Pascal Grillonnet, ex-opérateur au studio du temps.
Maxime Michel, directeur de la maison centrale de Saint-Maur. Merci à Guillaume Pinet, directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon.
Lecture.
Alban Penaranda, Pauline Conscience, Nicolas Frise.
Extraits musicaux de Vincent Chenot, Jérôme Lucas, Sébastien Chauderlot, Jimmy Apadou, Stéphane Burier, Emmanuel Favre, Jean-Charles Giboyot, etc. Ex-opérateur au studio du temps.
Extrait du Bon Plaisir de Nicolas Frise, une émission de Claude Hudelot et Eliane Millot de 1991. Extrait d'ouvrage de Nicolas Frise, Le sens de la peine, État de l'idéologie carcérale, 2004. Le studio du temps, rupture, travail, création, desserrer les taux, 2024.
L'expérience,
Aurélie Charon,
Inès Duperron.